Donc, la question de Jonathan.
J'aimerais vous savoir comment on peut juger les 15 secondes de quelqu'un tout le temps, ou pas quelqu'un, mais un groupe de personnes qui...
Comment juger quelqu'un de Kavzrout ? Donc en bon français, il est marqué dans la Torah. Betzedek tishpot amitecha. Tu jugeras ton prochain avec justice. Et en fait, le sens de ce texte est exactement le contraire de ce qu'on pourrait croire. Justice, ça veut dire que je dois être juste. Non, Chazal explique, tu dois le juger les Kavzrout. Que signifie les Kavzrout ? Alors il y a des lois. Alors, en deux mots, signifie faire pencher la balance du côté du bien, le juger favorablement. C'est ça le Kavzrout. Kav signifie, c'est un des côtés de la balance. Kav, c'est une cuillère ou un plateau de la balance. Et Zrout, méritante. Donc, il faut le juger du côté plus méritant, favorablement, plutôt que le descendre.
Condamner.
Voilà. Plutôt que de le condamner.
Si je ne juge pas les 15 Zrout, ça peut.
Alors, si quelqu'un ne juge pas les Kavzrout, alors il transgresse la mitzvah de la Torah, mais c'est là qu'il faut t'amiter. Maintenant, il y a des lois qui gèrent cela. L'obligation, c'est une obligation de la Torah. Obligation, c'est juste bien, c'est obligatoire. Quoi ? Lorsque quelqu'un fait un acte et j'ai un doute, comment considérer cet acte ? Si je vois qu'il fait un acte qui est interdit, d'accord, il allume la lumière Shabbat. Je peux pas, ou par exemple, je le vois dormir maintenant, peut-être on peut dire qu'il a fait, peut-être il a fait une grande nuit, ça toute la nuit. En deux mots, s'il fait une chose qui n'est pas bien, mais c'est clair qu'il n'est pas bien, il n'y a aucune manière de Kavzrout, parce qu'on peut juger une chose telle qu'elle est. C'est quand il y a un doute, je vois dormir le matin.
C'est-à-dire qu'il n'est pas bien.
Alors, pas bien, par exemple, je vois quelqu'un maintenant. On est à table et tout à coup, il traite l'autre de tu vas marcher dessus, tu m'as marché sur le pied, t'es complètement fou, il lui donne un coup de poing. Moi, je vois ça, le type est zinzin, d'accord ? Je peux dire de mon cœur, ce type-là, il est zinzin, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord ?
Un fait qu'on peut excuser, qu'on peut trouver bien.
Pardon ?
Il y a toujours un fait qu'on peut expliquer.
Alors, je vais expliquer les lois. Là, c'est clair qu'il a fait une chose qui est répréhensible. Non, on peut. À circonstances atténuantes, le pauvre, il a atteint des maladies graves, son papa lui marche sur les pieds quand il était petit, depuis il a fait une fixation là-dessus, et il se retrouve pas à marcher sur ses pieds, il a peut-être, il a un problème dans son pied, on peut trouver. Bon, alors laissez-moi peut-être juste dire les lois, après on pourra voir les cas de figure. La loi, elle est comme ça. Si il n'y a pas de doute que cette action qu'il a fait est mauvaise, j'ai aucun problème à le juger en tant qu'ayant fait une action mauvaise. On pourra trouver circonstances atténuantes. Il est nerveux, il a un background éducatif ou génétique qui laisse à désirer. On peut trouver des circonstances atténuantes. Mais on ne peut pas dire maintenant que ce type-là, il n'a pas fait un acte irrépréhensible, il a fait un acte qui est interdit, point barre, terminé. Est-ce qu'il est innocent ? Est-ce qu'il est coupable ? Très coupable, d'accord ? Ça, c'est déjà autre chose. Mais c'est clair, ce monsieur-là a fait un acte interdit. Le terrain dans lequel se réalise la mitzvah de Kavzrout, de juger favorablement, est dans le cas où j'ai un doute. Est-ce que cette chose-là, elle est interdite, elle est mauvaise ou pas ? Alors, par exemple, je vois quelqu'un rouler en voiture Shabbat. Je peux dire, horreur. Il roule en voiture Shabbat. Il est en train de transgresser le Shabbat. Je peux dire non. Maintenant, peut-être il est un cas de Bikwar Nefesh. Je suis en train de sauver une vie. Il fait une grande mitzvah. Il y a un doute. Alors, la Chah dit comme ça. Si le doute, il est équivalent. Il y a 50% de côté qui me disent il fait une mitzvah ou une chose permise. 50% qui me disent non, c'est une chose répréhensible qu'il fait. Dans ce cas, j'ai l'obligation de le juger favorablement et de dire certainement il fait la chose qui est bonne et pas mauvaise. Si il y a plus de côté de dire que c'est négatif que positif, trouvons un exemple. Il y a un type à la Shiva, il est paresseux. Tous les matins, ça lui prend une demi-heure de se préparer et il arrive toujours en retard à la prière. Hein ? D'accord ? Maintenant, je sais pourquoi. Je sais, tous les matins je suis là, il prend son temps. Il discute, enfin, il est très lent. Et un matin, je ne l'ai pas réveillé. donc je ne sais pas comment c'est pas possible s'il prévient extrêmement vite, mais il arrive de nouveau en retard à la synagogue. Je peux dire, ben, rebelote, c'est un paresseux. Ou je peux dire, non, il y a une chance sur mille que peut-être. Cette nuit, ses parents sont venus de France, ils étaient allés les accueillir à l'aéroport, et l'avion était en retard, il devait arriver à 11h du soir, il arrivait à 5h du matin. Et il est allé à 6h du matin dormir, il s'est revu à 6h30, et le pauvre, c'était un peu difficile d'arriver à l'heure à la prière. Bon, t'as une chance, ça peut arriver. Étant donné que la probabilité est beaucoup plus grande de dire qu'il a fait une erreur par paresse, j'ai le droit de le juger de façon négative. Il y aura une mesure de piété de le juger favorablement. Mesure de piété.
Mais on peut juger personne, quelqu'un, positif ou négatif, on a le droit d'avoir un jugement sur quelqu'un.
Tu as un jugement d'habitude. C'est marqué, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place. Mais quand c'est des choses qui sont un peu grosses, tu peux juger. Voilà, bien sûr que je peux juger. Je dis, ce type est paresseux.
Je peux le dire,
c'est pas une Lashona. Non, la Lashona, tout ça, on parle dans la tête en pensée. Tout cela n'est qu'en pensée.
Effectivement, cet homme-là est paresseux habituellement. Mais il a des circonstances atténuantes ce jour-là. Vous l'avez quand même mal jugé.
C'est vrai, mais toi, m'a autorisé. Parce que dans la probabilité, il y a plus de chances que ce. On ne sait pas, on est dans le doute. On ne sait pas ce que. Peut-être qu'il est fautif, peut-être qu'il est innocent. La Torah me dit, tu es dans le doute. Alors qu'est-ce que je fais? Elle me dit, il y a des lois. Quand le pourcentage entre le côté négatif et positif il est équivalent, tu as l'obligation de le juger positivement. Quand le côté négatif a l'air plus grand, au niveau de probabilité, il y a plus de chances, et je donne un exemple clair maintenant, il y a plus de chances que ce soit négatif, j'ai le droit de le juger négativement. Je répète, en pensée, on ne parle pas de parler, rien que dans ma tête, moi par rapport à moi. D'accord? Il y aura mesure de piété, pas obligatoire, mais néanmoins mesure de piété, de juger favorablement. J'en profite pour vous rappeler ce que dit la Gemara, traité Rosh Hashanah, page 17. « Amavir anidota, mavir mekol pshav. » Celui qui passe outre ses mauvais traits de caractère, on passe outre aussi tous ses péchés. Tu t'éponges, tu passes l'éponge sur ton prochain, on passe l'éponge sur toi. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu sais bien qu'il t'a fait du mal, tu peux lui en vouloir, enfin, je sais pas si tu peux le juger négativement. Tu peux te dire, si là, il m'a fait du mal. Et ne pas le pardonner tant qu'il ne s'excuse pas. Il ne s'excuse pas. Tu as le droit de lui en vouloir. Encore, il y a des lois là-dessus. D'accord? Mais disons, tant que tu ne l'as pas parlé, non, d'après que tu l'as parlé, tu lui as dit, écoute, tu m'as fait ça et ça et ça et ça, et sache que ce n'est pas bien, j'attends des excuses. Et lui, il n'a pas demandé des excuses, tu peux lui en vouloir, c'est permis. Donc, tu es dans ton droit. Tu es dans ton droit. Le droit, c'est le droit. Le droit, c'est la justice. C'est juste, tu as le droit. Tu as péché par rapport à Hachem. Tu as péché par rapport à Hachem. Donc, par rapport à Hachem, tu as une ardoise. D'accord? Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Maintenant, Dieu va se comporter avec toi comme tu te comportes avec ton prochain. Mesure pour mesure. Quand tu passes l'éponge et tu ne te comportes pas avec justice avec ton prochain, d'après la justice, tu peux lui en vouloir. Tu peux ne pas lui excuser. Alors, Hachem, ok, toi d'abord. Même chose. Il ne te pardonne pas et ne t'excuse pas. Tu as l'ardoise. Mais si par contre, tu t'écrases et tu dis, ok, allez, je lui pardonne. Et tu sais, écoute, je te pardonne. Eh bien Dieu, au même moment, il te pardonne. Et ça, c'est très difficile. Parce que chacun a un côté de justice. C'est injuste. C'est injuste. Il faut comprendre que comme moi, je bouille intérieurement, que c'est injuste et que je réclame justice, toutes les forces du mal que j'ai créées, tous les démons que j'ai créés, tout ce que j'ai créé par mes péchés, d'accord? Eux, ils prennent Hachem et le secouent, enfin, en quelque sorte, d'accord, ils disent, « Il mérite ça et ça, allez Hachem, vas-y !» C'est marqué que là-haut, c'est comme une cour, il y a l'accusation et il y a la défense. L'accusation, elle parle, elle attaque, elle dit « Justice, 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 justice !» Et la justice, c'est un argument qui parle à Dieu, Dieu est juste. La défense, elle dit « Oui, justice, mais laissez-le le temps de faire tchouva. » Le prouver, laissez encore un peu de temps, c'est pas. On essaie de trouver des armes. On ne peut pas aller contre la justice. On dit, ok, c'est vrai, justice, mais pas maintenant, plus tard. C'est ça, le rachamim, la miséricorde de Dieu, c'est plus tard. Laissez-lui le temps de faire tchouva.
Un moment.
La justice dit, non, maintenant. Alors, je me dis, bon, bah, on va voir ce qu'il dit, le pays. Qu'est-ce que dis toi? Moi, je dis, justice! Il m'a fait du mal! Je réclame justice! C'est injuste! Justice! Dieu va juger! Bon, mon cher ami, ce que tu veux, tu auras justice. Boum. Par contre, Si le type en bas, il dit, c'est vrai qu'après la justice, je peux en vouloir. Je me travaille, je dis, je passe l'éponge. Hachem dit, il n'a pas besoin de dire, forcément, elle dit, elle s'écrase tout de suite. Vous voyez à qui vous parlez, ce type-là, il passe l'éponge sur la justice. Donc, mesure pour mesure, on passe l'éponge.
Vous êtes obligé de dire en face à la personne, vous pouvez juste enlever votre occupé de vous.
Pas besoin de lui dire, tu peux en secret. Regardez combien c'est grand. Parce que qui peut venir bientôt, dans moins d'un mois, messieurs, on commence les sirot, c'est Elul, la tchouva. Qui peut venir vers Dieu et demander pardonne-moi? Quel espoir on a? Zéro. Une des seules portes d'espoir, c'est par notre comportement, montrer qu'on ne veut pas être juste. Qu'on est injuste dans le bien.
C'est pour
l'intérêt. Fait pour l'intérêt, c'est très bien. Ça ne dérange pas, chacun pour son intérêt. Si la Gemara t'a dit, soit passe l'éponge pour ton prochain, on passera l'éponge sur toi, ça veut dire qu'Hachem est intéressé que tu le fasses pour toi. Fais-le pour toi. Ça fera beaucoup de bien dans le monde.
C'est comme un salarié, on lui donne un salaire, mais si le salarié ne le fait pas pour le salaire, il fait pour plaisir, pour donner, parce qu'il aime ce qu'il fait, ça change tout.
Il dit maintenant les Shem Shamaim. C'est clair que c'est bien les Shem Shamaim. Mais même pas les Shem Shamaim. Même de façon intéressée, ça marche et ça vaut la peine. Et c'est pas facile. C'est pas le même niveau. Mais c'est pas facile. Même intéressé, c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui t'a fait des trucs terribles. Et maintenant vient Yom Kippour. Il y a des Gemara terribles, terribles, terribles. C'est dans Yom Rabba. Il y avait un boucher qui lui a fait beaucoup de mal. Et on est arrivé à la veille de Kippour, le boucher n'est pas venu s'excuser. Rabba s'est dit, il faut qu'il s'excuse, sinon il aurait une ardoise terrible, à faire du mal. Rabba, c'était le plus grand rabbin de la génération. Bon, Rabba s'est dit, je vais aller maintenant le voir, il me verra, il va sûrement s'excuser. Sur la route, il rencontre Rav Huna. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms, c'est Rabba et pas Rabba, Rav Huna peut-être un autre, mais si vous vous souvenez bien, c'est bien ça, Rabba et Rav Huna. Rav Huna lui dit, Rabba, je lui dis, je vais voir le boucher pour qu'il s'excuse. Rav Huna a dit, Rabba est allé par assassiner quelqu'un. Rabba va, et le boucher est en train de dépecer une bête. Il donne des coups comme ça de hache dans la bête. Il lève les yeux, il voit Rabba, il dit, t'es là toi, dégage. J'ai rien à te dire. À ce moment, il a donné un coup, un os a éclaté, et il lui a fondu la tête. Il est mort sur place. Hein, le boucher. Rabba vient jusqu'à là pour que tu t'excuses. Tu t'excuses pas. C'est-à-dire, le fait maintenant qu'on donne à l'occasion quelqu'un, comme Hachem te dit, il te tend la main, viens, et toi tu fais comme ça. C'est beaucoup plus grave que si tu n'as pas tendu la main. Ne pas tendre la main à quelqu'un qui t'attend, c'est extrêmement dur. Maintenant, si le boucher, d'une façon intéressée, avait dit, Rabba vient me voir maintenant. Moi, j'ai appris la Gemara dans Jean 17 que si je passe outre. Moi, je lui en veux. Moi, je pense que Rabba, il m'a fait un truc qui est mauvais. Chacun croit qu'il a raison. Mais lui, il dit ok, même si j'ai raison, je m'écrase. Rabba, je t'ai fait du mal, pardon. Eh bien, qu'est-ce qu'il gagnait? Non seulement la vie, mais des millions de milliards. Intéressé.
Comme si l'on s'en passe.
Et c'est pas facile. Hein? Même sur.
Au fond, il est pas.
Attends, tu as une autre question maintenant. Si maintenant.
Hein? C'est un impact, juste le fait de dire même s'il est.
Bien sûr. C'est très dur. À excuser quelqu'un. Excuse-moi, je réponds à sa question. Quelqu'un m'a fait du mal. Et maintenant, moi, je veux le pardonner. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête dit pardon. Dit pardon. Je comprends, j'ai appris maintenant, la Gemara dit ça, etc. Ça vaut la peine. Je le fais de façon intéressée. Mais ça, c'est ma tête. Mon corps, je dirais même plus bas que mon corps, ça vient de l'estomac, d'accord, il y a des bouffées sentimentales, imaginatives, de haine qui non, mais quand même, c'est très très dur, c'est une bagarre, on veut excuser, mais ça vient sans cesse. C'est rien. Il faut savoir que ces bouffées-là, c'est du mensonge, c'est du SRA. Ce sont les sentiments bestiaux qu'on a en nous. Tu mets ça de côté. Si ta tête décide maintenant, j'excuse, terminé. Maintenant, ça se peut que tu auras encore des années, des bouffées qui reviennent. Chaque fois, tu te dis, ok, ça va, j'ai pardonné, dégage, etc., avec tes bouffées imaginatives qui me cassent les pieds.
Comment on calme, on annule ces bouffées?
Avec le temps. Avec un travail. Avec le temps, ça fait une chose, avec le travail de raison. Raisonner. J'ai pardonné, c'est ma tête. Je sais maintenant que cette bouffée qui vient, c'est une bouffée imaginative. C'est du yetserara, c'est du mensonge. Il te relance, il te relance.
Après, vous
êtes déçu. Regarde, c'est la guerre éternelle qu'il y a entre la raison et les sentiments. Très souvent, les gens m'appellent. Voilà, ils sont en chez Tours. Lui ou elle est amoureux du conjoint, mais voit qu'il y a 40 000 problèmes. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais il y a une guerre entre la raison et le sentiment. Maintenant, la personne, elle dit « Ok, j'ai compris, j'arrête. » Elle arrête le chidour. Mais elle a encore des sentiments. Et peut-être que pas, et tatati, tatata. Là, il faut être complètement raisonnable. Là aussi, tu as dit « Je pardonne, c'est terminé. » Les sentiments reviendront. Mais comment tu les maîtrises? Avec la raison, tu dis « J'ai fait le calcul, j'ai pardonné. » Ce sentiment qui vient, ce n'est qu'un sentiment. C'est un menteur. Celui de Sarah, le sentiment, il est menteur, il est bestial, il n'est pas raisonné. Le sentiment n'est pas raisonnable. Un sentiment n'est jamais raisonnable. C'est marqué qu'on ne doit pas calmer quelqu'un quand il est en colère. Pourquoi? Parce qu'il est pris par ses sentiments. Qu'est-ce que tu lui parles raison? Il a une boule de sentiments. Il n'est pas raisonnable. C'est marqué qu'on ne peut pas consoler quelqu'un quand il est en face de son mort. Il a un défunt dans la famille, quelqu'un qui est décédé, on ne l'a pas encore enterré. Tu veux dire maintenant le calmer, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave? Il est en face de son mort. Il est pris de sentiments, tu ne peux pas. Où est le grand problème de parler de la Shoah? On ne peut pas en parler, les gens sont pris par des sentiments, c'est un sujet intraitable. Pourquoi? Parce que les gens sont très touchés par cela. Le sentiment n'est pas raisonnable. Donc nous devons savoir que lorsque je suis submergé par un sentiment de haine, de vengeance, d'accord, ce n'est qu'un sentiment et c'est du mensonge à mettre de côté. En tout cas, ce n'est pas raisonnable. Et si ma raison est fixée, je pardonne, terminé. Le sentiment revient, qu'il revienne. Je dis, tu me racontes des histoires, dégage au sentiment. Oui.
Rav, sans parler de vengeance, c'est trop facile. Enfin, on dit qu'Hachem, il est Dayan Haïmet. C'est trop facile. Alors la personne, elle me casse les pieds du matin au soir, elle me pourrit la vie. Alors je dois tout le temps faire du kavzerout, du kavzerout, du kavzerout, ok. Maintenant, voilà, je veux dire, à un moment, forcément, c'est normal que la personne, elle reçoit ce qu'elle doit recevoir. Sinon quoi, alors je dois tout le temps lui dire amen, 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 non?
Regarde, il faut comprendre.
On emploie le kavzerout à toutes les sauces. C'est trop facile pour lui.
J'ai compris la question.
Ouais.
Comprends la chose suivante. Tout ce qui m'arrive, tout ce que les gens me font à moi, ce sont des envoyés de Dieu. Alors, Dieu a envoyé maintenant quelqu'un qui doit me casser les pieds. Donc je n'ai pas de problème avec lui. Aucun problème avec lui. Maintenant, c'est vrai que la Torah me permet, et même me conseille, de mettre un holà. De dire, je te demande d'arrêter. Je te demande d'arrêter, je peux même crier un peu, sans me mettre en colère. Je te demande d'arrêter. D'accord? Pour qu'il s'arrête. Il continue. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais frapper. Je vais le haïr. Je vais le traiter de tous les noms. Non. J'accepte avec abnégation. Ou je dégage. Je change de pays. D'accord? J'ai pas d'autre solution.
Donc je me résous.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Rien. Mais le lui dire.
Le lui dire.
Arrête.
T'as une mitzvah. Dans le même verset que nous sommes en train de traiter, c'est marqué. Tu jugeras ton prochain avec justice, c'est donc la mitzvah de le juger favorablement. La suite du verset, tu corrigeras ton prochain. Il y a une mitzvah de la Torah, d'aller corriger ton prochain. Quelqu'un qui te fait de mal, tu dois lui dire lui gentiment, lui dire, écoute, tu m'as fait ça et ça et ça, sache que je te dis ça entre nous, je t'en veux pas, mais sache que j'ai souffert, je te dis ça pour que tu ailles au Lamaba, tu m'as fait du mal. Je te demande d'arrêter. Aussi, mais pour Dieu. Tu me fais pour mon bien, je ne veux pas que tu me fasses ni pour mon bien, ni pour mon mal. Ne me fais pas du mal. D'accord? Tu peux lui dire ça.
Ouais.
Maintenant, tu as fait ta mitzvah. Lui, puis t'envoie balader. C'est l'habitude de ce qui va se passer. D'accord? Tu vas encore plus l'en vouloir. Moi, je viens gentiment, comme ça, il m'envoie balader. Ok. Donc, il y a des situations où on ne peut pas. Alors, quelle solution? Lui casser la gueule. D'accord? Appeler les flics, envoyer la mafia. Le traiter tous les noms, lui mettre pour le gratter dans les oreilles quand il dort, ou bien qu'est-ce qui reste comme solution? Se la fermer ou dégager. Qu'est-ce que t'as comme où je peux l'empêcher d'agir ou je peux pas l'empêcher d'agir? Je peux l'empêcher d'après les lois de la Torah, ça veut dire avec calme, avec la parole. Si j'ai d'autres moyens de l'empêcher de nuire, je peux. D'accord. Quelqu'un qui vient me battre, je peux lui donner un coup de poing avant, il y a aucun problème. Celui qui vient te tuer, lève-toi avant pour le tuer. Mais s'il s'agit maintenant de paroles, il m'embête, d'accord, au niveau, il me taquine sans cesse. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai aucune solution. Je peux demander à des gens d'intervenir. Écoutez, la Shonara Toel, c'est un Shonara qui est avec utilité. Tu vois, quelqu'un lui dit d'influent que ce type-là respecte. Écoute, si tu veux intervenir, il me dérange, explique-lui qu'il ne se comporte pas comme il faut. Ce sont des moyens, mais on n'a pas la violence est interdite. Tout ce qui est contraire à Torah est interdit. Ça, c'est ce qui s'appelle maintenant accepter les décrets de Dieu avec amour.
Si quelqu'un me rejette, Voilà, je fais tout pour être plus proche de la personne elle me jette, elle me jette, elle me jette. Tu dois faire du kaf zéro.
Par respect pour lui, tu t'éloignes. Il veut pas de toi, pourquoi tu te colles? Hein? Moi, quelqu'un il veut rester marié avec sa femme, elle veut pas de lui. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, elle veut lequel? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie, conciliation, machin, elle veut pas. On peut la forcer, non, je resterai avec, je t'aime, je resterai avec toi, d'accord, tu l'égorges. Tu l'étrangles, tu peux pas. Elle veut pas, elle veut pas, point barre. Idem dans l'amitié, on peut pas obliger les gens d'être amis avec nous, il veut pas. C'est l'un de Dieu aussi, oui.
Mais en plus, là, est-ce qu'il ne faut pas, au lieu d'essayer de ruminer quoi, les choses, on ne s'en sort pas quelque part, accepter la situation comme c'est passé et avancer.
Ouais.
On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, même si vous dites,
ouais.
Voilà, on avance.
Sinon... On avance, on ne fait pas attention. Au contraire, si on sent plus d'amour pour lui, ça c'est un degré beaucoup plus grand, d'accord, d'habitude, ça peut aussi le calmer. Il ne faut pas, encore une fois, lui demande maintenant à ce qu'on soit loin de lui. Ok, mais je n'ai rien contre lui. Au contraire, je l'aime bien et je le juge favorablement. Ça, c'est très, très bien et c'est très juste de le faire. Je continue dans les lois de Kavzrout. Tout ce que j'ai maintenant, ce sont dans les gens qui sont les gens kasher, normal, un bon juif. Un tzaddik, même s'il y a très peu de pourcentage positif et beaucoup de pourcentages négatifs, obligation, pas mesure de piété, obligation de juger, juger favorablement. Comme c'est écrit, c'est un chacham qui fait un péché le soir, n'est pas de penser sur lui, car jusqu'au matin, il a déjà fait tchouva. D'accord ? Il y a beaucoup de cas écrits dans la Gemara, Rabbi Akiva, tout, bon, beaucoup de cas où on voit à quel point ses élèves l'ont jugé favorablement et fait un esprit extrêmement tordu pour croire que il y avait un cas, ils avaient sauvé une fille qui était emprisonnée et elle a dormi avec le rav dans la même chambre, d'accord. Le lendemain matin, il va au mikvé. Mikvé, c'est après qu'on a une relation sexuelle, on va au mikvé. À l'époque, on ne pouvait pas prier. Alors, il a demandé, est-ce que vous m'avez suspecté de quelque chose? Non, absolument pas. Pourquoi je vais au mikvé? On s'est dit, parce que tu étais fatigué de la route, tu as dû avoir une pollution nocturne. Ben, exactement ce que vous avez dit, c'est comme ça que c'est réalisé. Il y avait une fois un homme qui travaillait chez un autre. Il a travaillé pendant quelques bonnes années. Puis après, il a dû partir. Il a dû partir. Quand on part, on doit lui donner un grand... Le Torah dit qu'on doit lui donner une certaine rançon, un grand cadeau. Il lui dit, j'ai rien. Il a plein de choses. Deux mois de ci, je ne peux pas. Ça non plus, je ne peux pas. Bon, puis il est parti. Il est revenu six mois plus tard. Et là, il a fait une grande fête. Il lui a tout donné. Et il lui a dit, moi, quand je t'ai dit que j'avais rien, qu'est-ce que tu as cru? J'ai cru que tu as fait un néadère, que tu donnais toute ta fortune au Beit HaMikdash. Ben, c'est exactement comme ça. Et ça, à chaque fois, il avait un truc complètement tordu. Et ce jeune homme-là qui avait travaillé, c'était Rabbi Akiva, d'accord, qui l'avait jugé favorablement. Comme je racontais dans un cours dernièrement, chaque mida, chaque trait de caractère que Hachem nous a donné, il sert à quelque chose de bien. Il n'y a rien qui est pour le mal. Des fois, ça peut être très souvent mal, mais ça peut être utilisé même en bien. D'accord ? La colère, par exemple, c'est toujours mal. Mais au moins, ça existe pour qu'on puisse au moins des fois jouer la colère. Des fois, avec les enfants, avec un élève, il faut jouer, dire, montrer qu'on est en colère, bien qu'on reste très très calme à l'intérieur, très dur. C'est plus facile de rester calme quand on montre qu'on est calme. Mais montrer qu'on est énervé, alors qu'on a de bonnes raisons de s'énerver, et rester calme, c'est beaucoup plus difficile. La question se pose, il y a une chose qui ne sert vraiment à rien, l'esprit tordu. Dieu a créé des gens avec un esprit tordu. Je veux dire. Tu dis comme ça, il comprend comme ça. Tordu. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Oui, ça sert. Qu'on apprenne de lui à avoir l'esprit tordu quand il faut avoir l'esprit tordu pour juger quelqu'un de façon favorable. Parce que toute la logique nous dit, droitement, ce type-là, il est coupable, coupable, coupable. Tu vas tordre ton esprit pour... Non, non, non. Trouver toutes les... Et des fois, c'est dur. Quelqu'un te fait un lachonara. Rouven te raconte à toi le lachonara sur Shimon. Tu n'as pas le droit d'écouter. Même sans croire, même pas le droit d'écouter. Attends, tu as écouté, comment tu peux récupérer? Tu peux faire en sorte que ce lachonara, bediaval, ça veut dire rétroactivement, il devienne un lachonara positif, qui est permis, c'est-à-dire avec utilité. On peut dire un lachonara avec utilité. Lui, il a dit cela dans aucun but utile. Il a dit ça par haine. Moi, je n'ai pas le droit d'écouter, j'ai écouté. Je n'ai pas le droit d'écouter. Comment je peux maintenant réparer ce que j'ai écouté? Je peux dire, je l'ai écouté maintenant, je vais récupérer ce que j'ai écouté, ce sont positifs. Comment je vais le convaincre qu'il a tort? Tu as dit comme ça? C'est très bien que tu me l'as dit. Parce que maintenant, je peux expliquer que c'est tout à fait faux ce que tu as dit. Et je le prouve par A plus B qu'il a tort. Il faut arriver. D'habitude, il dit, comment tu racontes des histoires? Et il recommence encore pire. Si je sais quand, si je vais rétorquer, lui, je vais l'encourager à faire encore plus de chanara, c'est interdit. Mais c'est un des moyens d'utiliser notre esprit tordu pour Ma femme raconte qu'elle a travaillé chez ma tante dans sa jeunesse. Et ma tante, elle est non-religieuse. Elle est très, 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 très vieille. Très, 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 très vieille. Et c'est épatant de voir, c'est marqué que ce goût-là pour avoir la vie longue, qui est celui qui a le monde de la vie, boucle ta bouche de parler du mal. Ma femme a dit que dans ce magasin, il y avait une vendeuse toute la journée, c'est des gens non-religieux, hein, toute la journée, ne faisait que parler la chanara. Lui, il est comme si, elle est comme ça, lui est comme si, elle est comme ça, toute la journée. Et la direction du magasin, c'était ma tante, de sa vie, elle n'a pas, ce que ma femme a entendu, de sa vie, elle n'a pas dit seulement négatif sur quelqu'un. Et je crois que l'autre disait, elle trouvait tous les moyens de dire non, tous les cas seront toujours jugés favorablement, trouver du bien. Elle a une vie, elle a marre de vivre, elle dit pourquoi Dieu ne me prend pas, d'accord? Ça marche. Donc arriver à juger favorablement, je finis sur les lois. Ça, on a vu le type cachère, le type qui est tzadik, le type qui est rachat. Un type qui a un statut de rachat, un mécréant. Même sa majorité de côté positif et peu de côté négatif, mitzvah de l'enfoncer. De dire qu'il est coupable.
Non, donc il n'y a pas de cap zéro là alors.
Hein?
C'est pas le rachat qui est tzadik. Vous savez déjà d'attendre dire que quelqu'un est tzadik ou rachat, j'ai pas jugé.
Non, non, je t'expliquais. Tout cela, on parle dans le doute. Mais quand tu sais, parle dans le doute. Tu as une réalité, ce type-là, c'est un rachat. Tu l'as vu, aller en discothèque. D'accord?
Pour le sadique, je ne peux pas savoir.
Hein?
Pour le sadique, je ne peux pas savoir.
Le sadique, on peut savoir aussi un type qui est sadique. On voit, tu vois comment il fonctionne, ce type-là.
Pour il peut être un grand sadique, pour moi, il peut être comme tout le monde.
Ok, il y a une trazaka. Trazaka, c'est une présomption. On ne sait pas, personne n'a un scanner dans les yeux, d'accord? Mais on a des présomptions. Ça, on peut dire, c'est pas d'après son comportement, il a un statut de sadique. D'après le comportement que je vois, on n'est pas obligé d'aller sonder son cœur. Mais si, ben, il se comporte comme un sadique, lui comme un moyen, lui comme un mécréant. Ben voilà, c'est en fonction.
Ça se trouve, il a une équilibre extraordinaire au niveau de ses bidons, donc il a un bon niveau.
Ça fait rien,
c'est un sadique.
Ok, il n'a pas fait d'effort, mais c'est un sadique quand même. Et lui, c'est un type qui est cachère, un type sadique. Il n'y a aucune raison de le juger défavorablement. Ce type-là, d'après son comportement, aussi de façon innocente, c'est pas sa faute. Il est né, c'est le fils du chef de la mafia, sa mère était la chef des sorcières, d'accord? Les deux sont mariés, et lui, il est né, d'accord? Misken, d'accord? Mais non, moi, c'est un rachat. Coupable ou pas, c'est pas moi de juger. Je ne juge pas les gens. Je dis qu'est-ce qu'il est. S'il plaît, maintenant, se comporte comme il fait des actes qui sont interdits par la Torah toute la journée. Bahou Hadonai, l'homme, l'homme, l'homme.